Bonjour Nasser Bakhti.
Bonjour.
On se retrouve pour votre nouveau film qui va sortir incessamment sous peu sur les écrans en Suisse romande. Créta est comme
L'espérance est violente.
Apollinaire. Vous
Absolument.
pouvez nous parler de ce titre?
Bah, c'est pas le mien, je dois le dire. Et au début, j'étais un peu
Surpris?
surpris et j'aime bien le titre. J'adore cette expression parce qu'elle a un sens pour moi. D'ailleurs, c'est une phrase à interprétation pour chacun de nous. Et moi, pour moi, c'est toujours lié à l'attente. L'attente vaine. L'espérance devient violente quand l'attente est vaine. Et pour Bernard, ça date de mai 68. Mais par rapport à sa vie d'aujourd'hui, où je l'ai filmé au quotidien, je me suis dit, elle résonne par rapport à l'attente de la fin de vie qu'il vit au quotidien, cette angoisse de partir, cette angoisse de vieillir. Et donc, c'est parfait pour moi. Quand il me l'a proposé, j'étais pas sûr, j'ai douté, et c'est pas mal, mais après, j'ai pu comprendre ce que ça voulait dire.
Nasser Bakhti, vous venez de dire Bernard, mais pour que les auditrices et les auditeurs vous comprennent, Bernard Créta,
Bernard Créta.
qui était surnommé Monsieur la Mort avec ses cafés mortels à la RTS, à la radio suisse romande à l'époque,
Non,
et
café mortel dans les
dans les
cafés,
cafés,
dans les
mais il avait
cafés.
aussi une version
Oui.
radiophonique, et il avait en fait rendu la mort accessible à tous alors qu'elle était devenue taboue dans la société.
Elle est toujours taboue, hein. J'ai fait un film en 2019, je l'ai commencé en 2014, autour du deuil d'un enfant unique, et qui est
Johan.
de Johan, oui, un ange
Johan.
passé trop vite. J'ai suivi le couple Gumi qui est Gérald et Lucie, et ça a été pour moi un choc parce que j'avais pas vraiment un rapport particulier par rapport à la mort. J'ai perdu ma grand-mère, comme tout le monde, elle a vécu et elle est morte. Et j'avais pas vraiment vécu une perte qui m'avait bouleversé. J'avais 5 ans ou 6 ans quand j'ai perdu ma grand-mère. J'ai été bouleversé parce qu'il n'y avait plus personne pour me raconter des histoires la nuit. Mais là, j'ai vu à quel point la mort était entourée d'un tabou, mais incroyable. Il suffit de dire, je fais un film sur le deuil, je ne prononce pas le mot mort, qui est le mot, ah, le deuil, d'accord, et tout, et tout. Alors Bernard est venu, comme il le dit dans le film, j'ai découvert les secrets. Comment il dit, il y a une phrase, la tyrannie des secrets. Et j'ai ouvert un espace pour que les gens viennent parler de leurs secrets, déposer ces fardeaux qu'ils portent depuis des années. Et je peux vous dire que j'ai assisté à des cafés mortels. Et on sort de là, on est bouleversé parce que quand il y a un vieux bonhomme à côté de vous qui a presque 80 ans et qui vient et qui dit, j'ai jamais parlé de ça de ma vie. Le jour où mon père est mort et ils partent dans des choses. Et c'est vrai qu'on n'intervient pas, on est là pour écouter. Moi, j'allais comme observateur, donc je ne pouvais pas intervenir. J'étais là juste pour voir à quoi ça ressemblait, ces cafés mortels. Et à chaque fois, je partais le cœur lourd, mais je me dis, les gens qui ont parlé partaient avec le cœur léger parce qu'ils ont déposé quelque chose. Donc il a créé vraiment un espace d'intérêt général, d'intérêt public. C'est
De
comme
parole et d'écoute.
de parole et d'écoute, et c'est comme si c'était une thérapie collective. Les gens viennent, ils s'écoutent, ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls parce qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu la même chose et qui n'en ont pas parlé pendant des années et des années. Je me rappellerai toujours de Un ange passé trop vite. J'ai jamais vécu ça depuis, ça fait 30 ans que je fais des films, j'ai jamais vécu ça de ma vie. Les gens prenaient le micro après le film et personne ne pouvait leur arracher le micro parce qu'ils voulaient dire ce qu'ils avaient sur le cœur. C'était devenu, chaque séance à travers la Suisse romande était devenue une thérapie collective. mais des témoignages, je me rappelle jusqu'à aujourd'hui, des témoignages, mais bouleversants, où on ne pouvait que écouter. D'ailleurs, on ne pouvait plus intervenir, on ne pouvait que écouter. Et même l'audience, après, personne ne bougeait. On ne pouvait que écouter le micro qui passait d'une femme à un homme, d'un jeune à une petite fille. Je suis la petite fille de tel et mes grands-parents. Je suis le père et mon enfant. Je suis le frère. Mon frère est mort à 5 ans. Et personne ne m'a parlé de mon frère jumeau. Je suis là aujourd'hui, j'ai 55. Des choses hallucinantes. Donc voilà, la force de ces cafés mortels.
C'était le fait de recueillir la parole. Et d'ailleurs, pour revenir à Bernard Crétin, lui, il vient du Val d'Anniviers, où il a travaillé avec sa seconde épouse, Yvonne Preisberg, sur les rites funéraires, qui sont encore très présents, très vivaces. Il y a quand même des régions, même en Suisse, où il y a encore une manifestation du rite, une veillée funéraire, avec les prières qui s'accompagnent pour aider le passage à la personne défunte. Ça existe aussi dans d'autres pays, comme le vôtre d'origine. Et ça s'est perdu en ville, par exemple.
Oui, d'ailleurs, Bernard en parle. Et c'est pour ça que c'était important pour moi de recueillir ce témoignage sur les rites funéraires. Parce que, comme moi, ignorant par rapport à cette pratique, les jeunes, aujourd'hui, n'en savent rien. Et puis, lui... Il dit, c'est ça que je trouve intéressant, il dit, on m'a transmis et je transmets. Et il nous raconte vraiment dans le film tout ce que ses parents lui ont appris par rapport le jour où je serai morte, la maman qui lui dit, voilà le tiroir numéro 1, le tiroir numéro 2, tu sortiras ceci, tu sortiras ça, tu mettras les bougies, tu prendras cet habit qui est le mien et c'est moi qui l'ai choisi, ton père, voilà le costume qui... Et c'est juste incroyable comment on enseigne à un enfant ce qui va se passer dans le futur. On ne sait pas quand, mais on sait que ça arrivera. C'est inéluctable. Donc, c'est pour ça que je pense que au niveau pédagogique, ce film va apporter à notre jeunesse pour leur donner une idée de comment ça se faisait avant. Aujourd'hui, bon, on fait une prière, on dit des choses sur le défunt, il rentre dans le crématoire, il sort de l'autre côté en cendres, on le met dans une urne et on dit voilà, on va le déposer, on va jeter ses cendres dans. Mais il n'y a pas vraiment un rituel où on l'accompagne. Il y a une dame qui s'est levée et qui a dit, mon arrière-grand-père, on lui a dit au revoir sur la table de la cuisine. Il était là et on passait et on lui disait au revoir, tous les enfants, les oncles, toute la famille et même les amis venaient à la maison pour dire au revoir au défunt pendant 4, 5, 6 jours. Il est là pour que les gens viennent dire des choses, se recueillir de manière intime, seul à seul avec lui. Là, on ne peut pas avoir le mort seul à seul. On lui laisse une demi-journée, on lui dit salut, au revoir, il est mort, oui, d'accord. Dans 3 jours, il y aura la cérémonie, on vient. Donc, je pense qu'il y a des choses qui se sont perdues. Je ne suis pas nostalgique, comme dit Bernard. Ce n'est pas d'être nostalgique par rapport. C'est que les choses évoluent, mais en évoluant, elles perdent aussi beaucoup sur le chemin qu'on emprunte, voilà.
Mais dans certaines régions, je pensais par exemple aux Irlandais, où le catholicisme est encore très vivace.
Comme en Valais.
En Valais.
Absolument. Ça continue jusqu'à aujourd'hui.
Certains villages de Fribourg, ouais. Et puis bien sûr dans la culture hébraïque.
Oui, absolument.
Là, il y a vraiment toute une cérémonie autour du défunt.
Ben chez nous, la même chose. Chez nous, la même chose. Il y a des gens qui viennent... le mort est exposé repose plutôt dans une pièce. Cette pièce est destinée à ce que les gens passent pour lui dire au revoir. Voilà, lui rendre hommage et lui dire au revoir. Et puis, chaque soir, il y a... Je me rappelle comment on dit ça en arabe. Chaque soir, il y a un rituel où on vient, pendant cette période-là, lire le Coran autour de lui et que les gens se réunissent, mangent, parlent de lui.
C'est festif aussi.
Oui, c'est bien sûr. Parlent de lui, tu entends des éclats de rire, rigolent, disent ah, tu te rappelles comment il était. Tu
on relate les anecdotes.
Relate les anecdotes. Et d'une manière ou d'une autre, le faire revivre, le ressusciter pendant ces trois jours. Vraiment le ressusciter et lui donner une existence et raconter tout. Si c'était un bon, on n'entendra que des choses bonnes sur lui. Si c'était un mauvais, on n'entendra que des choses mauvaises, malheureusement. Mais les gens sont empathiques, ils essayent quand même de dire oui, oui, quand même. mais c'est comme ça. Il y a ces rituels existent. Ces rituels existent. Mais bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? C'est comme ça. On doit accepter l'époque dans laquelle on vit.
Avant d'arriver à être Monsieur Lamort, Bernard Créta s'était destiné au séminaire pour un petit peu répondre aux attentes de ses parents, surtout de sa maman. Et donc, il a commencé le séminaire à Fribourg, il me semble.
Non,
à Sion. Et... malheureusement, il a croisé une mini-jupe, ça l'a bouleversé.
Oui, c'est, il dit que c'était dur pour lui, c'était très dur, mais il n'avait pas le choix. Il devait accomplir ce que sa maman, la tante, il devait donner une réponse positive à la tante de ses parents. C'est le seul garçon. Donc il l'a fait et tout. Et chaque été, il montait à Zinal pour travailler à la poste. Pendant l'été, et un jour, il a croisé la première mini-jupe du Valais.
Ça l'a bouleversé.
Ça l'a pas seulement bouleversé, ça l'a complètement... Il dit, c'était de la folie. Et...
Ça l'a sorti du droit chemin du séminaire.
Non, il a dit, j'étais déjà... C'était interdit de regarder, c'était interdit de... Mais je ne pouvais pas, j'étais jeune. J'avais des pulsions comme tous les jeunes de mon âge, mais je devais m'abstenir jusqu'au jour où j'ai fait un petit, moyen, grand, petit, il ne savait pas,
péché.
Et j'ai été vite me confesser, mais il a compris qu'à partir de ce moment-là, il n'était pas fait pour le célibat, comme il dit. Et il a continué pendant une année, et malheureusement, à la fin de l'année, il est parti. Et ça a été très, très dur pour lui. D'ailleurs, il l'explique dans le film. C'était vraiment très dur. Mais il dit, j'avais pas le choix. J'ai choisi la liberté.
Ce qu'il explique aussi dans votre film, Nasser Bhatti, c'est qu'il y a eu une petite histoire avec la jeune fille qui portait cette mini-jupe, voilà. Mais qu'il y a mis un terme à son grand regret.
Oui, il a mis un terme à son... Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Il n'a pas été jusqu'au bout de cette relation. Lui a dit, écoute, on s'aime et tout, pourquoi ne pas partir ensemble et tout ça, rien. Lui, il a dit, non, ça, je ne peux pas. Le séminariste doit se cacher, et moi, je n'ai pas envie de me cacher, que les gens ne me voient pas et tout. Non, c'est... Et puis après, il est parti. Il a choisi, comme il le dit, le choix de la liberté.
Nasser Bhatti, le célibat des prêtres, ça, c'est un autre film que vous allez peut-être faire. Ça n'existe pas ni dans l'islam ni dans le judaïsme. Et ça n'existe seulement que depuis le XIIe siècle chez les catholiques qui voulaient thésauriser les richesses de l'Église catholique. Par contre, pour revenir à Bernard Créta, donc il est fils de paysan et il fait des études universitaires ensuite. Il va en sociologie.
Oui, absolument. C'est quelqu'un...
À Genève.
Et il est parti à Paris aussi. C'est quelqu'un qui vient de très loin. Et il a le respect de ses confrères, de ses collègues, parce qu'il a vraiment réussi. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui a sa langue dans sa poche, et c'est quelqu'un qui a une analyse absolument profonde par rapport à chaque thématique qu'il traite. Parlons de la Suisse, la suissitude, parlons de la mort, parlons des rituels funéraires, parlons des frontières. Aujourd'hui, par exemple, il a atteint... Aujourd'hui, ouais, il n'est plus là, mais quand il a atteint l'âge de 80 ans, il a commencé à parler de la vieillesse. Mais personne ne parle de la vieillesse comme lui, parce que il en parle de manière concrète par rapport à ce que vit une vieille personne.
Son corps qui se fait souffrir.
Tout. Moi, je me rappelle, on avait des rendez-vous comme ça, de temps en temps, très sporadiques à Genève, où il venait, on allait prendre un café juste devant le marché Opus de Plein Palais. Et je le voyais arriver une fois en forme au début. Et une fois, j'attendais, il était en retard et tout. Je me suis dit, mais je vais l'appeler. Et juste avant de l'appeler, je vois au loin une silhouette avec deux bâtons. Et il marchait avec beaucoup de peine. Je me dis, non, c'est pas Bernard. Et je regarde à travers la vitre du café et c'était vraiment lui. Mais pas avec beaucoup de difficultés, une difficulté à respirer quand il est arrivé et tout. Et il me dit, ouais.
Il se surnomme d'ailleurs le vieillissant.
Le vieillissant, absolument. Mmh. Et il me dit, cette foutue vieillesse. Et il rigole, il me dit, t'en fais pas, Nasser. Ton tour arrivera. Aujourd'hui, tu fais le fanfaron, t'es jeune et tout, tu lèves ta tête, tu regardes le ciel, la beauté du ciel. Le jour où tu ne regarderas que le trottoir, quand tu traverses, le jour où tu feras attention à chaque marche d'escalier que tu fais, chaque marche, tu as peur de mettre le pied à côté, ce jour-là, tu te rendras compte de ce que c'est que la vieillesse. Et c'est vrai que ça me bouleversait, parce qu'il continuait à venir. Rien ne l'empêchait d'avancer, ce gars. Rien n'empêchait Bernard d'avancer, d'écrire. On l'invite à un séminaire. Il prépare son séminaire. Il va au séminaire. On l'invite à une conférence. Il fait la même. On l'invite. Moi, je disais, mais si tu veux, moi, je viens à Fribourg. Il ne me laissait jamais aller à Fribourg. Il venait. Ça lui faisait une petite balade dans le train. Et après, il marchait et tout. Après, je l'ai accompagné. Ou s'il avait rendez-vous, je l'accompagnais. On allait prendre manger ou marcher dans le parc des Bastions. Et après, il allait à son rendez-vous. Et moi, j'allais à mon bureau. Non, c'était vraiment incroyable. Donc, c'est quelqu'un qui approfondit chaque sujet.
Qui croque la vie.
Et puis, il l'a dit, c'est pour ça que j'ai un énorme respect pour lui et pour son travail, il dit, un sociologue ou un journaliste, quand on voit le journalisme de nos jours, un journaliste qui ne fait pas son boulot, qui ne remue pas, excusez-moi du terme, la merde, paix à l'âme d'Albert Londres, Il ressusciterait aujourd'hui, il dirait non, remettez-moi dans ma tombe. Je ne veux pas voir le journalisme d'aujourd'hui et les médias d'aujourd'hui. Donc lui, il dit ça. Je suis un sociologue. J'ai essayé à travers mes travaux de remuer, de faire. C'est un rénovateur, un novateur, rénovateur, qui essayait toujours que les choses se changent, qu'elles avancent, qu'elles évoluent. Le mot qu'il aborde, consensus, pour lui, ça, c'est un mot, tu le dis, il dit...
Va des rétro.
Ça l'énerve, parce qu'il dit, c'est fade, ça ne vous permet pas d'avancer. On doit s'arrêter et on doit...
Débattre,
sans fin, pour aboutir à rien en plus, et puis dire, ah oui, on est tous contents, tout le monde part heureux et gentil... Ça, quand il évoque,
love.
Voilà, il évoque ça quand il a pas, il a évoqué ça quand il parlait de mai 68 et de toute cette je dirais pas cette contestation dans la rue de ces jeunes qui voulaient autre chose que ce qui était imposé par leur
on a le droit d'interdire.
Voilà.
Mais Nasser, ce qui ressort de manière vraiment très prépondérante dans le film, c'est son humour constant.
Absolument, et c'est quelqu'un qui nous faisait rire sur le plateau, quand on était en train de tourner dans les situations où on est au cimetière, où on est dans une église. Moi, j'étais... À chaque fois, je me disais, mais... voilà. Dans une église, ou dans la rue, ou dans un café, ou quand on allait manger. Mais tout le temps, il avait quelque chose pour détendre l'atmosphère, faire rire l'équipe et détendre l'atmosphère. Mais il n'y a pas que ça. Il était bienveillant. Moi, quand je l'ai rencontré, il m'a demandé qui j'étais, pourquoi je voulais... Il a essayé de savoir qui j'étais, de me connaître avant qu'on entame quoi que ce soit. On n'a jamais essayé de me connaître. On me dit, ah, qu'est-ce que vous avez fait ? La première question qu'on vous pose, c'est, vous avez fait quoi ? Vous faites quoi ? Lui, il m'a dit, qui es-tu ? Qui es-tu ? Qui es-tu ? Il m'a posé une question pour que je réponde à d'où je viens, qui je suis, mais pas, que fais-tu d'abord ? C'est étonnant. On commence, quand les gens vous abordent de cette manière-là, vous commencez à vous poser des questions. Et c'est vrai qu'il m'a fait me poser beaucoup de questions. Parce que moi, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, moi, je ne vous connais pas. Je suis honnête. Je n'ai pas lu vos œuvres. Je ne vous connais pas. Et vous m'intéressez. Pourquoi ? Vous m'intéressez parce que je suis venu une fois à Fribourg. Je vous ai interviewé. Et c'est vrai que les choses qu'on a eues m'a complètement bouleversé. Et j'ai trouvé que vous aviez des choses à dire et que j'ai essayé de retrouver dans ce que vous avez dit, dans les médias et tout. Et je me suis dit, oui, c'est quelqu'un qui peut porter un film. Il a les épaules pour ça. Et je viens aujourd'hui vous demander si vous voulez vraiment que je fasse votre portrait, que j'essaye, j'essaye de faire votre portrait. Et il a accepté. Et j'étais ravi, mais vraiment ravi et touché. Et il y a des gens qui me disaient, mais pourquoi Bernard, au fait, il est tout le temps sur les plateaux, il est tout... Mais j'ai dit, j'espère pouvoir lui faire dire ce que tous les plateaux ne lui ont pas fait dire.
Vous anticipez sur ce que j'allais dire, justement, Nasser, c'est que vous avez obtenu des confidences, voire des confessions, parce qu'il est très pudique, en fait, très discret. Et avec vous, il se livre.
Trois phases pour connaître. Pour moi, ça, je parle de moi. Je n'essaye pas de généraliser ou quoi que ce soit. Au début, c'est la flamboyance. Le gars est brillant.
Cabotine un peu aussi.
Non, mais brillant. Mmh. C'est ce qu'il dit. Et en même temps, jovial, bon vivant. Même on peut dire cabotin et tout. Mais on l'écoute quand il parle. On le côtoie un mois, deux mois, trois mois, six mois, un an, et on découvre cette douceur qu'il a. Vraiment, ce type-là est pudique et il a une douceur que les gens ne voient pas. Quand je dis qu'il rigole, les gens me disent, mais une douceur ? Oui, il a une vraie douceur. C'est le feu et la brise, la douceur de la brise. Et tu restes avec lui trois ans, quatre ans. Tu découvres que ce gars aussi a une fragilité, mais à fleur de peau. Quand tu abordes avec lui quelque chose qu'il a en lui et qu'il doit sortir. Et ça, la dernière interview qu'on a eue avec lui, vous pouvez parler à toutes nous trois, l'équipe qui était avec lui, on était bouleversés. Parce que tout le long, on était devant quelqu'un qui...
Le colosse au pied d'argile.
Le colosse au pied d'argile, absolument. Quelqu'un qui... Il nous emmenait voir des gens, il nous emmenait faire ci. On va à l'université, on va à la télé, on va au musée. Et d'un seul coup... Oh, Dieu. Non, mais c'est vrai, d'un seul coup, il a eu, dans cette interview d'ailleurs, des silences, mais incarnés. Pour moi, c'est beau pour un cinéaste de pouvoir filmer ces silences qui parlent beaucoup plus que de filmer une interview sur une analyse politique, scientifique. C'est quelque chose d'incroyable. Et il a abordé quelque chose qu'il m'a dit au début. Au début, il a précisé que ça restait... C'est pour ça que je parle dans mon dossier de presse de secrets, de choses qui doivent rester... secrète. Il a accepté d'en parler et l'interview, vous allez découvrir l'interview.
Alors Nasser, dans le film, il y a plusieurs intervenants et intervenantes. Il y a ce monsieur Elio Ragonesi qui est de sa génération.
Absolument.
Il y a sa sœur, Charlotte.
Et
il y a sa troisième épouse.
Oui, Elisabeth.
Qui le malmène de temps en temps. Et puis il y a Jean-Pierre Franière. Un ami avec qui il avait écrit « Oser la mort » et une journaliste, Eliane de Toledo. Vous pouvez nous dire. Non?
Non, non.
Alors, je me suis trompée, j'ai mal retenu son nom.
Non, non.
Vous pouvez parler.
Lilian de oui. Toledo, mais elle l'a invité pour parler du Covid, à l'époque du Covid. Et c'était notre premier tournage après la période, après la pandémie, oui.
Et les autres intervenants, intervenantes, comment vous les avez choisis par rapport à ce qu'ils vous confiaient sur Bernard?
J'ai choisi beaucoup d'autres, hein. J'ai eu plein, mais sa mort m'a fait refaire tout le montage. Le film était fini, il y avait plein, tous les gens qui l'ont côtoyé. Il y avait un ami à lui, Dominicé, Pierre Dominicé, qui était un intellectuel, un grand monsieur de l'université à Genève, qui a fait beaucoup de choses avec lui. Il y a eu Pité. Monsieur Pité, qui a Raymond Pité, qui a les pompes funèbres de Lausanne, général de Lausanne, qui l'a côtoyé, qui a fait des séminaires avec lui et tout. Il y avait Gilles Marchand, pour qui c'est un maître, il était son élève. Il y a eu qui d'autre? Il y a eu la famille rwandaise, avec qu'il a adopté. Jean, qu'il a adopté. Il y a eu tout le film. On l'a emmené à Paris. Il y a une séquence à Paris bouleversante où il demande pardon. Je suis lâche. Il dit des choses incroyables. Et tout ça, c'est des séquences qui ne peuvent pas vivre dans un film où ils doivent avoir 1 minute 30 ou 2 minutes. C'est des séquences qui devaient exister 5 minutes, 6 minutes. Je les ai mises, j'avais un film de 2h30 et je me suis dit non, je dois prendre des décisions radicales. Et après sa mort, j'avais un film, avant sa mort, j'avais un film qui faisait 1h50, je dirais, 1h48.
Donc et, vous avez refait tout le montage.
Et j'ai refait tout pour lui donner plus de paroles. Et tous ces intervenants... que lui, il y en a qui savaient qu'ils allaient intervenir, il y en a qui savaient que je voulais lui faire des surprises, parce que je suis allé voir des gens, pour des amis à lui, qui ne savaient pas que j'ai été voir. Eh bien, je les ai retirés, et ils sont tous dans le DVD, dans les bonus du DVD.
Mais c'était ma question, il y a des bonus.
Et oui, tous ces inédits, ou ces scènes coupées, je les ai gardées pour les bonus du DVD. Mais je suis heureux aujourd'hui, quand je regarde le film aujourd'hui, je lui ai vraiment donné la parole et j'ai respecté, j'espère, je ne l'ai pas travesti cette parole. Et j'espère que, comme il l'a dit, il y a des gens qui vont dire « Ah, c'est encore le créta qui va nous embobiner et tout », et d'autres qui vont être touchés parce que je sais, lui-même, ça c'est lui qui le dit, je sais qu'ils ne savent pas. Et ça, pour ça, je suis fier de l'avoir accompagné pendant ces 4 années.
Dans son parcours, vous avez mentionné l'Université de Genève, vous avez mentionné le musée. Il y a aussi la fameuse fondation de la Société des études thanatologiques avec sa seconde épouse, Yvonne Preisberg. Absolument. En 82. Ça, c'est révolutionnaire.
Non, c'est quelque chose... Mais c'était un parcours, normal, évident. Il n'y avait pas ça, ça n'existait pas. Donc c'est pour ça que je dis il est novateur, il essaye de créer des choses. D'ailleurs, ils sont tous les deux, c'est Yvonne et lui, ils sont tous les deux à la base de cette initiative. Donc c'est pour ça je le dis, j'espère que c'est permis de faire une petite pub. Le 13 novembre, il y a une soirée au Cinélux
à Genève.
À 19h, je pense, ou à 20h, je suis désolé.
19h30,
qui est consacré, ce sera un hommage au travail et au couple d'Yvonne et de Bernard. Il y aura des témoignages de gens qui les ont côtoyés, il y aura des témoignages de famille, parce que c'était important d'évoquer Yvonne, qui était pas seulement importante, mais qui était... je dirais, essentiel dans sa vie, parce qu'il a fait des choses avec elle incroyables. Et aujourd'hui, vous verrez dans le film ce qu'il en dit, d'ailleurs.
Ben, le couple Créta-Preisberg, ils ont levé le voile sur la mort, qui était devenu un tabou, puis ils ont aussi permis de porter le regard sur...
Ça s'appelait comment ? L'expo s'appelait... La mort à vivre, l'expo qui a eu en 99 après qui était je pense préparé par les deux et qui a été dirigé après par Bernard après le départ de d'Yvonne.
En avril 99.
99. Expo qui a cartonné, mais qui a vraiment cartonné parce que pour la première fois, la mort était exposé et on pouvait venir découvrir les rites de la mort, ce que c'est que le deuil, comprendre, poser des questions, participer à des séminaires. Ils ont fait quelque chose d'incroyable.
Pour revenir à votre film, Naxarvati, donc vous serez présent à toutes les projections en Suisse romande, avec votre
les
équipe,
les premières.
Oui. Par contre, le film, il sort le 1er novembre. C'est une promesse que vous aviez faite à Bernard.
Ouais, lui, il disait...
La fête des morts, la Toussaint.
La Toussaint, il disait, ah, si on pouvait le sortir, le Nasser, ça serait magnifique de le sortir. Comment il disait ? Prodigieux, lui, le mot prodigieux. Ça serait prodigieux que le film puisse sortir à la Toussaint, le 1er novembre. J'ai dit, mais on ne peut pas savoir. Parce que tu sais que les films sortent le mercredi. Et si... Et cette année, le mercredi, c'est un 1er novembre, et c'est le jour de la Toussaint. Donc,
Bernard, de là-haut,
Bernard fait du boulot efficace.
Il continue à travailler.
À travailler sur la promotion et la sortie du film. Je me disais, c'est pas possible. Le 1er novembre est un mercredi. Donc, le film sort le 1er novembre.
Et c'est un bel hommage parce que c'est 3 semaines avant le premier anniversaire de sa disparition, en Autriche l'année passée.
De sa disparition. Donc Bernard nous a fatalement quittés, fait faux bond. Lui, moi qui voulais, je voulais à tout prix, vraiment, je voulais à tout prix qu'il soit à mes côtés pendant toute la sortie du film et pouvoir parler, défendre ses opinions, défendre ses interventions, mais malheureusement, il est parti. Et il est parti comme il le voulait, hein, d'une mort qu'il souhaitait. Il n'est pas parti avec une maladie. Il a dit, je ne voudrais pas être gaga, Alzheimer, qu'on me traîne d'une chambre à l'autre, comme je voudrais partir, comme il le dit dans le film. Et paf, je ne suis plus là. Et c'est ce qui est arrivé. Il a eu une attaque cardiaque, c'est sur le champ. De façon immédiate, il est parti sans douleur, sans souffrance, sans rien. Et il est parti à 84 ans, à l'âge de son père. Et vous allez le découvrir dans le film, je crois qu'il le dit 3 ou 4 plus. Et lui, il l'a dit au moins 20 fois dans le film, mais, pas dans le film, sur les tournages. Mais j'ai gardé 3 ou 4 fois dans le film où il le répète à des amis ou à des personnes que je sais, je partirai à 4. Il me reste encore 2, 3 ans, pas plus. Et à 84 ans, il est parti.
Nasser, vous avez mentionné en début d'interview que vous avez travaillé sur le cheminement de deuil des parents Guimi. Vous avez travaillé avec la maison Tara. Donc, vous côtoyez aussi avec Bernard la mort. Est-ce que ça vous a changé votre regard sur la façon de côtoyer la mort, de l'envisager ?
Déjà, de pouvoir en parler. Parce que je dois dire que faire le film sur... Johan, que je connaissais, c'était très dur. Moi, je l'ai vu gamin avec ses parents qui l'emmenaient à la salle de judo et ils arrivaient tous les trois et tout. Et puis d'un seul coup, je vois les parents, main dans la main, seuls, sans leur enfant, sans Johan. Donc j'ai eu un peu de peine. D'ailleurs, le film ne s'est pas fait après la mort de Johan, la disparition de Johan. Le film s'est fait 5 ans après. Où je les ai vus, je ne peux pas dire sereins, ou je les ai vus cheminer, avancer.
Différemment d'ailleurs.
Différemment, oui. Bah, au début, je ne pouvais pas parler. Je croisais Lucie, je la prenais dans mes bras, on ne se disait rien, et puis elle continuait son chemin, et je continuais mon chemin. C'était très, très dur. Et avec ce film, je l'espère, pour eux, ils ont pu dire réellement ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont vécu, et de façon libre. Et ils ont été fantastiques parce qu'il fallait trouver les mots pour poser des questions. Ça, c'était un travail très dur pour moi parce que je me suis dit, si Nasser, tu vas mettre les pieds dans le plat en posant des questions de façon
abrupte.
Abrupte et inappropriée, ça va être dur pour eux et ça va être dur pour le film. Alors j'ai essayé toujours, et ils ont toujours répondu. J'espère que je les ai pas blessés, que je les ai pas. C'est parce que c'est pas simple de d'être accueilli chez soi et de parler et de d'aller dire aux gens, parlez-moi de la mort. Vous avez entendu ce qu'il m'a dit, Jean-Pierre Franière. Vous venez nous parler de la mort, on a envie de vous casser la gueule et on vous dit revenez. C'est pas simple de parler de la mort, mais ces travaux que j'ai faits jusqu'à aujourd'hui m'ont permis de regarder la mort autrement et de pouvoir de me dire je peux en parler, je peux en parler. Et d'ailleurs, comme vous l'avez évoqué, notre film prochain, c'est un film sur la fin de vie, mais pas un film sur le triste. C'est un film joyeux, c'est un film où on voit les gens rire, on voit les gens pleurer, bien sûr, mais on voit le partage, on voit l'acceptation de notre destin et de notre finitude, et on voit aussi que la fin de vie peut être engageante, parce qu'elle appelle à la réconciliation, elle appelle aux retrouvailles. Il y a des gens qui ne se sont pas vus pendant je ne sais pas combien de temps, il y a des gens qui ne voulaient pas voir leur fils ou leur fille, ou qui ne pouvaient pas parler à leur frère ou leur soeur, et d'un seul coup, on est malheureusement condamné par une maladie, et les choses commencent à comme un petit puzzle qui se fabrique lui-même, comme ça, petit à petit, et qui est là, et qui se résout par rapport au rapprochement, aux réconciliations, à l'amour des gens qui montrent de l'amour à celui qui part, ou celui qui part, qui appelle les autres pour leur montrer l'amour qu'il a. C'est juste, c'est bouleversant. Nous, on a filmé une année entière. C'est une immersion d'une année. Hiver, printemps, été, automne. Et on a accompagné, on a eu des relations avec des gens qu'on a accompagnés pendant une semaine. Et après, avec lesquels on a ri, avec lesquels on a pleuré, avec lesquels on a chanté, avec lesquels, et qui partent, on nous dit, ils sont partis. Et puis, on a encore une autre famille, on a rencontré des familles, des enfants qui ont perdu leur papa, des maris qui ont perdu leur femme. C'est des situations mais dramatiques, mais en même temps, il y a une telle vie dans cette maison. Il y a un tel partage que c'est un film auquel on tient, et on l'a réalisé, Béatrice et moi-même, ensemble. Parce que j'ai dit, moi j'aurais pas pu le faire tout seul. C'est très, très prenant. Parce que éprouvant. Vous rentrez à 4h du matin, vous avez filmé toute la nuit, vous avez accompagné la veilleuse de nuit, vous rentrez à 5h du matin, vous êtes chargé. Mais vraiment chargé émotionnellement. Et on rentre en voiture, on ne parle pas. On est juste sur ce qui a été vécu pendant toute cette nuit. Non, c'est quelque chose. Mais je pense que, en tout cas pour moi, ce film est important. Parce que il relativise la mort, ces gens qui ont dit « Ah, moi j'ai peur, j'ai pas envie », ou quand un de leurs proches a un deuil, ils le voient, ils traversent de l'autre côté pour ne pas lui parler ou pour ne pas l'approcher, parce que il y a des gens qui disent c'est comme si on était pestiférés parce qu'on a un deuil, ils ont peur de nous, les gens ont peur de nous. Non, la mort est normale. Les grands sont morts, les petits vont mourir aussi. Les grands de ce monde sont partis, les petits de ce monde partiront aussi. On partira tous. Donc,
face à la mort, on est égaux.
Si on parle, je n'ai pas envie de rentrer là, mais si on parle aujourd'hui de comment dire, d'aimer son prochain, de la solidarité, de la justice, de l'égalité, tous ces mots beaux.
La bienveillance,
la démocratie, tous ces mots beaux et qui sont pour moi aujourd'hui vides de sens, je le dis fort, vides de sens. Il y a une seule chose, face à laquelle nous sommes tous égaux, tous ces quatre pieds sous terre. C'est la seule chose, la seule qui existe dans ce monde, depuis l'existence de l'humanité, la seule chose à laquelle, face à laquelle nous sommes égaux, c'est la mort. C'est la faucheuse, comme dirait Bernard. C'est la faucheuse. Qu'on soit noir, faucheuse. Blanc, rouge, vert, musulman, chrétien, juif, je ne sais pas, médecin, paysan, infirmière, pilote, on partira tous de la même manière. On est tous égaux face à ça. À part que chacun sa route, hein. Il y a celui qui souffre, celui qui part serein, chacun sa route. Chacun son karma, comme dirait une amie à moi.
Nasser, sur ces belles paroles, on peut dire aux auditeurs, aux auditrices, où ils trouveront, je pense, sur le site du film.
Sur le site du film, oui.
Toutes les dates sont sur le site. Où vous serez présent.
Oui, sur le site du film, toutes les dates sont de la sortie à partir du 1er novembre, bien sûr.
Mais Troubadour tout, Film
Non, sur le site. Peut-être qu'on va le mettre sur le site de Troubadour Film, mais sur le site du film de Créta. Crétalefilm.com. Crétalefilm.com. Il y a toutes les villes de Suisse romande. Et ce matin, je reçois aussi des nouvelles. On va les afficher. Et j'espère qu'on aura l'occasion de vous rencontrer et débattre avec vous sur la mort, mais pas avec tristesse, mais avec
joie.
Voilà.
Pour que notre karma soit bon, il était déjà bon ce matin pour l'entretien.
Absolument.
Merci Nasser.
Merci à vous. Merci.
Au prochain film.
Au prochain, Inch'Allah.